Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Entre 1953 et 1962, existait une émission intitulée « Le bureau des rêves perdus » ou « À la poursuite des rêves perdus », animée par le grand Louis Mollion, dont la voix, vous allez l'éprouver, ouvrait grand les oreilles de ses auditeurs. Mollion avait été découvert par Paul Gilson et deviendra chef du service des émissions littéraires et des dramatiques à l'ORTF. Son réalisateur, Albert Riera, avec lequel il travaillait toujours, fut également un des grands créateurs de formes radiophoniques. L'émission que nous allons entendre n'a jamais porté son titre à un tel degré de paradoxe. Car vous allez entendre un homme, Raymond Laroche, cheminot, qui avait toujours rêvé de faire de la radio. Confier ce rêve à un micro qui le diffusera partout, c'est en faire une réalité. C'est l'avoir poursuivi ce rêve, avec assez de force pour le concrétiser. Il fut donc exaucé en 1954 par nos deux magiciens.
La radiodiffusion française présente Le Bureau des rêves perdus, une émission de Louis Mollion avec Étienne Berry et les rêves perdus de Monsieur Laroche, mécanicien de route à la SNCF. Réalisation Albert Riera.
Monsieur, oui. Je m'excuse, c'est bien ici le bureau des rêves perdus.
Mais oui, monsieur, c'est ici. Ah, que désirez-vous?
Eh bien, me serait-il possible de retrouver des rêves perdus?
Ah, mais rien de plus facile, monsieur. Tout d'abord, il faut me donner votre nom.
Eh bien, je suis Raymond Laroche.
Monsieur Raymond Laroche, attendez, vous êtes né...
Le 9 février 1920.
Le 9 février.
À Amiens, exactement.
1920 à Amiens, je note tout cela. Et votre profession?
Mécanicien de route à la SNCF.
Mécanicien de route à la SNCF. Monsieur Raymond Laroche, né à Amiens. Bon, eh bien, nous allons retrouver vos rêves perdus.
Mon père était alors élève mécanicien au dépôt d'Amiens et tout gosse, il m'emmenait avec lui sans la machine pour la bonne raison que ma mère s'opposait à ce que je rentre à la radio. N'est-ce pas, rentrer à la radio, le mot est peut-être un peu grand, mais enfin, ne voyez pas très d'un bon œil une carrière artistique pour des raisons personnelles de famille, n'est-ce pas? Et mon père, lui, voulait faire de moi un cheminot. Et tout gosse gérait dans le dépôt d'Amiens à longueur de journée, avec une burette, et alors fier devant mes camarades qui étaient dans la rue, je revenais avec une poignée de déchets dans les mains. Les mains n'étaient d'ailleurs pas sales, mais enfin, je m'essuyais tout de même les mains pour avoir l'air d'un professionnel, d'un mauvais professionnel à l'époque. Mais j'étais heureux de me promener avec cette poignée de déchets, de dire « j'ai monté sur une locomotive » qui était déjà tout de même une... Je sentais le pouvoir que pouvait avoir un mécanicien sur une locomotive. J'aimais bien regarder les mécaniciens et chauffeurs préparer leur feu, surtout le feu qui était une chose grandiose, de voir un homme faire du feu, c'était une chose que j'admirais, une chose que je n'admire plus d'ailleurs maintenant, parce qu'elle est beaucoup trop pénible, mais c'était une chose que j'admirais Et comme je savais très bien qu'il était illusoire de croire à faire une carrière à la radio parce que la radio n'en était qu'à ses débuts et que mes parents s'y opposaient d'ailleurs formellement, mon père me prenait avec lui au dépôt dans sa vie de mécanicien pour faire de moi un mécanicien, car il voyait dans le chemin de fer une place où je pouvais faire une carrière appréciable, ce qui est tout de même réel également. Et je voyais très bien un gosse partir à la conquête d'un monde nouveau, car lorsqu'on se lance dans la nuit à bord d'une locomotive, le mécanicien réalise très bien qu'il se lance un peu dans l'inconnu, malgré qu'il soit en pleine connaissance des lignes qu'il parcourt, il a l'impression de se lancer véritablement dans l'inconnu. Et étant gamin, j'embêtais souvent ma mère pour aller voir passer mon père, qui se fait d'ailleurs à l'époque un malin plaisir de ficher un royal coup de sifflet sous la passerelle, ce qui me faisait d'ailleurs pleurer, et au grand plaisir de ma mère, qui après disait à mon père, oui, je n'irai plus te voir avec le gamin, il n'a pas cessé de pleurer pendant toute la soirée avec ton coup de sifflet. Et je me voyais à sa place, mon père était chauffeur et mécanicien ensuite. Je me demandais si un jour, moi aussi, j'arriverais à être sur une grosse machine. J'ai retrouvé ces rêves d'enfant, mais comme ces rêves d'enfant s'étaient matérialisés et que j'étais devant un fait accompli, eh bien, j'ai tout de même éprouvé, non pas une crainte, mais j'ai eu cette difficulté qu'éprouvent certainement tous mes camarades de me dire tout de même aujourd'hui tu es sur une machine, vous sentez cet engin à domestiquer, à avoir entre vos mains, car pour tout dire il est beaucoup plus facile de mettre un train en route que de l'arrêter, et il y a tout de même également la responsabilité des voyageurs que vous remorquez. Et cela, ça compte, ça vous passe dans l'esprit, cela dure quelques jours. Mais tout de même, les premières heures sont assez pénibles. Lorsque vous êtes sur votre machine, on vous dit en route, vous faites tout de même preuve de grand garçon, vous ne pouvez pas aller en arrière, cela n'est pas possible, ou alors vous perdez tout votre métier, et un peu cet orgueil de l'homme, n'est-ce pas, cette fierté, eh bien, vous empêche de reculer. Alors vous foncez, vous allez de l'avant. Alors que j'étais enfant, je reconstituais le studio. J'avais mis sur un coin de la table un phono-valise que je tournais continuellement pour ne pas avoir de trou dans mon émission. J'avais toujours un gong qui était fabriqué avec un vieil obus, avec une baguette de tambour qui me servait pour taper. Je faisais des cloches, des sons à l'infini. Et puis alors, j'avais également un gros tampon de lait que je mettais dans le cornet de mon phono pour faire des fondus pour mes émissions de publicité, car j'avais mes émissions de publicité. Et je tapais un petit peu tous les camarades du quartier pour leur demander leur disque, parce que la discothèque de la maison n'était pas très riche. J'avais à peu près à ma disposition une trentaine de disques qu'à longueur de journée je jouais. Et alors je présentais La Veuve Joyeuse comme un grand classique à l'époque. D'ailleurs, c'était le seul disque en 30 cm que je possédais. Et je passais l'Auberge du Cheval Blanc également comme les grandes opérettes. Là, j'avais beaucoup plus de chance car j'étais venu de Paris voir l'Auberge du Cheval Blanc et mon père avait acheté l'opérette en entier. Alors je passais une retransmission, je faisais ma petite retransmission de théâtre en direct. J'aime me voir à la place du speaker Et mon micro qui était devant moi était relié en dessous de la table avec un morceau de ficelle. Et alors j'avais même fait une fois une farce à ma mère. J'avais relié le bout de ficelle au poste de radio. Et ma mère me demandait ce que c'était. Eh bien, c'était l'émetteur, parce que dans la cour, à l'époque, on avait à peu près 25 mètres d'antenne dehors. Et c'était l'antenne émettrice. Et j'avais reconstitué tout le studio dans ce que je croyais être un studio. Et c'était comme ça que je l'avais conçu, de cette façon-là. Lorsque j'étais parti, il n'y avait plus rien qui comptait autour de moi. Tout était calfeutré. Il faisait même l'été une chaleur étouffante, mais j'étais dans un studio. Il était bien à moi et mon grand-père n'osait même pas rentrer de crainte de déranger l'émission. D'ailleurs, tout était prévu. J'avais marqué à la porte défense d'entrée, avec une grosse faute d'orthographe d'ailleurs à la fin du mot qui faisait froncer les sourcils à mon père. Et c'était véritablement mon domaine. J'étais chez moi. J'étais dans mon domaine à la radio. Je retrouve même sur des pochettes de disques, je retrouve de vieilles pochettes de disques, je retrouve toutes les missions que j'avais fait. Et à l'époque, c'était les débuts de Paris PTT. Et je voyais tous ces gens qui étaient dans un studio, parce qu'à l'époque, on ne prenait pas la peine de couper les micros lorsque l'on déménageait un orchestre. Et je faisais également, avec des chaises, un raffut formidable au grand plaisir de ma mère, vous vous en doutez. Je faisais un grand raffut de chaises et je déménageais mon studio. Et on passait un événement sportif ou une causerie médicale, car c'était simplement l'heure du déjeuner. Et après une demi-heure de déjeuner, je revenais vite dans mon studio, recontinuais mon émission. Ou alors un camarade faisait l'enchaînement pour moi. J'avais mon auditoire à tenir au courant. Je prenais même, au cours d'un disque, je prenais les informations à la radio, à la véritable radio, et automatiquement, je venais couper mon disque et faire mon bulletin d'information, et l'on enchaînait après. Et lorsque ma mère partait en course avec moi, eh bien, je trouvais le moyen de faire une retransmission de spectacle imaginaire pour mes auditeurs pendant 2 heures. Vous allez entendre la retransmission de tel et tel spectacle. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée. Et nous vous mettons maintenant en communication avec le spectacle de telle et telle salle. Et l'on entendait, je faisais une autre voix pour donner l'illusion du speaker de la salle. Et après, le speaker de la salle, lorsque je revenais de faire mes commissions, reprenait l'antenne au studio, tout comme je l'entendais d'ailleurs à la radio le soir. Mon père, qui était à l'époque mécanicien de route également à la SNCF, ce n'était pas d'ailleurs la SNCF, c'était les chemins de fer du Nord, touchait des revues où il y avait énormément de publicité. Et je partais, comme je vous l'ai dit, avec un disque, et je lisais les feuilles, je lisais toute la réclame, je faisais toute la publicité. Et c'était encore l'époque du direct. Nous faisions tout en direct, et alors je me souviens encore, je faisais, à l'époque, Paris PTT avait ses émissions. Mesdames, messieurs, nous nous excusons du bruit que vous entendez dans le studio à l'heure actuelle. Nous sommes en train de déménager parce que tel orchestre vient de passer. Et j'imitais, moi aussi, les bruits de chaises en faisant marcher 2-3 chaises, en faisant un bruit infernal qui avait d'ailleurs pour résultat de faire rentrer ma mère dans la pièce. Je lui hurlais, non, c'est interdit, nous sommes en pleine émission. Je recréais une ambiance que je n'avais d'ailleurs, que je ne connaissais que par un rêve, parce que j'écoutais Paris PTT et Radio Luxembourg qui en était assez débile. La première chose que je me suis dit, c'est d'arrêter juste à la première gare. C'était la première chose que la hantise d'arrêter à la première gare. Comment vais-je arrêter mon train? Et puis, la première gare passée, la deuxième est passée, toute la ligne a suivi. Et je suis revenu, c'était encore autre chose, parce que je suis affecté à un service de banlieue. Je me trouvais placé dans d'autres conditions de travail. Je me trouvais derrière une vitre, ce qui change totalement la conduite du train. Et là, j'ai refait exactement ce que j'avais fait sur la locomotive. Je me suis retrouvé avec les mêmes craintes, les mêmes difficultés. Je les ai éprouvées et ressenties de la même façon. Et j'ai foncé également, parce que le moyen était toujours le même, ne pas reculer. Et je suis arrivé à Paris, et là, je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma femme, eh bien, le premier pas est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer, espérer et avoir confiance en soi pour ne pas qu'il arrive d'ennui. Il y a dans les métiers ce qu'on appelle les grandes roues. Les grandes roues, ce sont les machines des services rapides. Et c'est un peu l'ambition de tous les jeunes qui montent en machine de faire les grandes roues. Les rapides, d'ailleurs, il est une erreur commise beaucoup et trop à l'excès de voir que dans le mécanicien, que le mécanicien de rapide. Qu'il soit rapide, banlieue ou marchandise, tous les mécaniciens ne sont que mécaniciens de route. Mais il y a une ambition tout de même, c'est de faire de la route. Serait-ce que pour aller à Calais, aller à Bruxelles, voir du pays, eh bien, on a cette ambition. Et lorsque j'ai fait les premiers trains, c'était d'ailleurs dans de mauvaises conditions, puisque c'était à l'époque de la Libération, j'ai monté comme chauffeur, j'ai commencé à faire les services de marchandises, puis ensuite, j'ai voulu aller au service des grandes roues, à la Chapelle. J'étais au dépôt de la Chapelle et j'ai fait des trains rapides comme chauffeur. Et j'ai éprouvé une certaine joie de faire mon premier train rapide. Et j'avais là également une crainte parce que tous les mécaniciens me représentaient un peu les trains rapides comme un monde impossible à vaincre. Et en somme, c'est une chose qui se fait évidemment. Le travail est dur, il est pénible, ce n'est plus la peine d'y revenir. Beaucoup l'ont démontré, peut-être un peu trop exagéré. Mais enfin, c'était une joie pour moi, une fierté de faire mon premier train rapide. Et lorsque je suis arrivé à Calais, si je ne me trompe pas, c'était Calais, eh bien, j'ai sauté au buffet, j'ai pris une carte et j'ai expédié à mon père, qui était en retraite, et je lui ai dit, voilà, souvenir de mon premier rapide. Que tout humain peut avoir, c'est d'avoir toujours une situation beaucoup plus aisée que celle qu'il a présentement. Et évidemment, le rêve fait personnellement que je fais souvent, n'est-ce pas, ou en m'endormant, ou en s'assoupissant un peu des fois dans un wagon ou sous le bord d'un quai lorsque nous avons quelques moments de loisir, eh bien, si je gagnais à la loterie nationale, eh bien, la première chose que je ferais, ce serait déjà de partir, ce n'est peut-être pas très chic, mais de partir à l'étranger pour oublier un peu tous les soucis que nous avons en France, je dis bien nous, car tous les Français en ont, n'est-ce pas? Eh bien, ce serait de partir à l'étranger, de voir s'il y a peut-être mieux. Je l'ai d'ailleurs fait cet été. Je me suis rendu en Espagne. Et j'ai passé quelques jours de vacances en Espagne. C'était très joli, c'était très agréable. Mais le meilleur rêve que j'ai pu faire en Espagne, c'est celui de revenir en France et j'étais encore bien content de rentrer chez moi. Je ferai ce que je fais, me monter une discothèque et essayer de rechercher, ce que je fais d'ailleurs, de rechercher tous les disques rares qui ont pu exister, dont malheureusement ils n'existent plus. Cela, je recherche parce que je suis discophile et amateur de disques, et je le fais même avec le concours d'autres cheminots qui se rendent ou en Belgique ou même en Allemagne, et même des camarades des PTT, des wagons-lits qui me rapportent des disques très appréciables. C'est un rêve pour moi d'avoir justement ce que les autres n'ont pas. Mon rêve le plus cher, c'est d'avoir une discothèque que j'aurais créée de moi-même. Cette discothèque, je la voudrais dans une pièce. Oh, pas une grande pièce, une pièce minuscule, mais alors véritablement isolée du reste du monde, où tout à souhait, je pourrais entendre mes disques préférés, le repasser 10 fois, 20 fois, sans ne pas entendre le voisin du dessus me dire « Tu commences à m'agacer avec tes disques à mon dogueur de journée. » Je voudrais les avoir dans toute la catégorie des grands chefs d'orchestre que malheureusement tous je n'ai pas connus, et dont les disques se font rares maintenant. Je voudrais retrouver toute la série des Barnabas von Gixi, des Marek Weber, des Dajos Bella, et surtout les premiers enregistrements d'orchestres qui se sont faits en musique de genre, musique que je vénère parmi tout, les musiques qui existent, et qui est peut-être la musique la plus descriptive qui soit en elle-même. Et je voudrais cette pièce avec 2 tourne-disques et un petit micro. J'aimerais faire mes émissions bien à moi, avec un auditoire illusoire, mais enfin, où je pourrais recréer le studio de radio. Je reverrais très bien cette émission avec mes 2 platines. Je tiens énormément à mes 2 tourne-disques qui me permettraient de faire des enchaînements, des fondus, etc. Mon fils, qui est encore bien jeune à l'heure actuelle, j'essaie de lui donner, de lui apprendre, de le faire parler le plus français, le français le plus correct possible. Chose que personnellement, dans mon métier, je n'ai pas, c'est très difficile à arriver. Je lui expose, je lui fais toujours écouter tel et tel speaker. Lorsque je vais au théâtre, je lui dis, tu vois, telle réplique a été donnée de telle façon, car je voudrais qu'il soit producteur à la radio. Je voudrais faire de lui ce que je n'ai pu arriver que par des moyens détournés, et non pas d'une façon continue et professionnelle, simplement en amateur. Ce serait une fierté pour moi d'avoir mon fils producteur à la radio, et de le voir là, je serais encore bien, comment dirais-je, jeune à l'époque. J'aimerais le voir à une place de producteur, entendre ses productions, ce serait un plaisir, je savourerais ce que personnellement je n'ai pu jamais faire. Il faut dire que pour les mécaniciens et chauffeurs, la nature se prête aisément à ces sortes de rêves, n'est-ce pas? Rien n'est plus fabuleux que la nature. Elle est grandiose, et je suis sûr, lorsque vous êtes en chemin de fer, par exemple dans votre compartiment, ce rêve vous passionne, vous arrivez à créer un rêve. Eh bien, pour un mécanicien et un chauffeur, certainement, malgré tout son bon sens professionnel, il arrive... non pas à s'égarer, le terme est inexact, mais il arrive à se créer une sorte d'euphorie de quelques secondes, et ce rêve, bien, il le voit selon son tempérament, et il le voit également selon le temps, l'époque où il se trouve. Par exemple, lorsque vous passez le long de l'Oise, n'est-ce pas, rien n'est plus beau que de voir vos vacances à venir. C'est un rêve que beaucoup d'entre nous font. Il y a un paysage qui est celui de la vallée de l'Oise vers Valmondois. C'est un paysage que j'aimais beaucoup, et l'été, j'adore passer dans ce paysage vers 4h30, 5h du matin. La nature est toute ouverte, vous respirez un air tellement frais que vous voyez déjà vos vacances. Et justement, c'est un peu une petite Suisse, n'est-ce pas, cette ligne entre Paris et Valmondois. Nous l'appelons d'ailleurs la petite Suisse de Paris en termes de métier. Eh bien, je voyais du moins mes vacances qui allaient se produire au mois d'août. Je plonge en Méditerranée, devant moi, comme ça, sans savoir exactement où cela va me mener. Et j'aime, en plongeant, revoir peut-être un rêve d'enfant, un rêve qui va se concrétiser. J'aime aller au-devant sans même regarder derrière moi, parce que je suis certain que j'aurais peur, si je regardais derrière moi, de voir la distance que je vais parcourir, chose que en sous-marin l'on fait, alors qu'en surface je ne ferais certainement pas. Et c'est un plaisir lorsque je cours après les poissons, j'essaie de les traquer, je soulève des pierres, j'aime voir leur vie, cela c'est indéniable. J'aime tirer également un parallèle entre l'échelle des poissons de toute cette jante sous-marine et l'échelle des hommes. Et elle est peut-être plus douce parce qu'elle est dans un élément liquide, peut-être plus sauvage. Et les hommes ont cette chose que les bêtes n'ont pas, c'est que peut-être les bêtes elles aussi ont leur intelligence, mais les hommes sont cruels dans leur sens, et les bêtes le sont également. Je me souviens très bien avoir vu des gros poissons manger des petits, et également essayer de chasser ces gros poissons, peut-être un sursaut de bon sens m'a dit, mais non, tu ne vas te même pas laisser manger ce pauvre petit par cette grosse bête, et puis total, vous l'oubliez, vous replongez. La pêche sous-marine, évidemment, prête également à tous les rêves, d'autant plus que vous évoluez dans un royaume tout à fait inconnu, tellement inconnu qu'à certains moments, lorsque vous remontez en surface, vous êtes étonné d'avoir fait tant de mètres que vous n'auriez certainement pas fait en surface. Et alors, vous créez tout un monde également de légendes qui, d'ailleurs, pour certains, se concrétisent également dans la Méditerranée, des gens qui recherchent des villes antiques, qui arrivent à retrouver des vases. Eh bien, moi, je cherchais des coquillages, je cherchais toujours ce que les autres n'auraient pas vu. Cela a toujours été d'ailleurs mon idéal, de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Et vous revoyez devant vous des sirènes, je les vois très bien, ces sirènes qui sont là, parce qu'elle est une gentille baigneuse, mais une fois rappelée à la surface, elle m'a mis un bon coup de pied. Et en me relevant, tout simplement, j'ai vu une dame qui m'a dit « Alors, vous ne pouvez pas faire attention à vous, vous êtes là, à quoi rêvez-vous » Eh bien, je rêvais de ce château, et ce château, c'était, en me relevant, c'était le château de Collioure que je voyais dans le haut, et je m'étais très éloigné de la plage, je n'avais d'ailleurs à ce moment-là qu'un seul sursaut, c'était de revenir bien vite en arrière. Ce château de Collioure devenait un château sous-marin, parce que Collioure est très riche en passé, et à Collioure, il y a des parachutistes assez souvent qui plongent devant vous, et alors vous êtes mêlé à quelques mètres d'eux. C'est tout un monde qui évolue devant vous. Et alors j'aimais me trouver parmi tous ces gens, je me les forgeais un peu comme des gens qui descendaient du ciel, un peu ce monde irréel que je voyais très bien dans l'eau. Et malheureusement, il fallait vite revenir à la surface. Et comme je voyais ces vacances, je les voyais sur la Méditerranée, où j'allais la première fois, dans les Pyrénées également, et par ces voitures qui sillonnaient, qui suivaient même, que je suivais avec le train, je voyais mes vacances déjà, je me voyais dans une voiture en train de faire toutes les Pyrénées, l'Oise, je me la représentais comme la Grande Bleue, et je me voyais, où je voyais des baigneurs, parce qu'il en est très matinal, je les voyais vers 4h30, 5h du matin dans l'Oise, et bien moi je me voyais à cette époque en Méditerranée, et quelques semaines plus tard, ce rêve s'est concrétisé, puisque j'avais le plaisir d'être dans les Pyrénées, et également en train de plonger, de nager, de faire la pêche sous-marine en Méditerranée. Ce que je voyais devant moi, c'était un rêve, je me reportais à 1200 km de distance sur la Méditerranée, alors que devant moi se déroulait le Serpentin de l'Oise. Nos chefs directs sont épatés, n'est-ce pas, n'arrivent pas à comprendre cet esprit de solidarité, car c'est un véritable lien qui unit, mieux peut-être qu'un homme et une femme, qui unit deux hommes entre eux, un mécanicien et un chauffeur. Ça, c'est incontestable, on ne peut pas dissocier une équipe. Lorsqu'un mécanicien et un chauffeur ne s'entendent pas, ceux qui arrivent par incompatibilité d'humeur, eh bien, ils ont le courage, entre hommes, de se dire, eh bien, ça ne va plus, nous changeons et on recommence les équipes. Ça, c'est... L'équipe est véritablement unie. Et l'on verra un mécanicien prendre la responsabilité sur lui de défendre son chauffeur. J'ai toujours déclaré, et je le déclare encore, que rien n'est plus faux que le mécanicien à la Zola. Émile Zola a vu le mécanicien peut-être sous un jour qui était peut-être vrai à son époque. Malheureusement, d'autres journalistes ont repris, en y ajoutant peut-être certaines formes de l'état d'esprit 1953, ont repris l'idée de Zola. Mais je ne vois pas le mécanicien, comme beaucoup le voient, je ne vois pas le mécanicien, l'homme noir et ruisselant de sueur. Non, un mécanicien n'est pas cela. Il n'y a pas de surhomme, il n'en est pas. C'est un homme, comme vous et moi, qui fait son métier, il l'aime, il le défend parce qu'il lui permet de vivre. Mais le mécanicien, eh bien, vous serez surpris dans votre vie de trouver devant vous des gens qui sont mécaniciens et qui ne sont peut-être pas l'image que vous vous êtes fait d'un mécanicien. Et ça, je n'ai pas peur de le dire, le mécanicien n'est pas l'homme ruisselant de sueur, ça je dément Zola à ce point de vue-là. Les mécaniciens et chauffeurs soignent leurs machines. Certains écrivains ont marqué qu'ils préféraient mieux leurs machines que leur maison, que leur foyer. Et cela était peut-être vrai en 1934 ou 35, mais cela n'est plus en 1953. Non. Cela n'existe plus. Le mécanicien aime sa machine, il soigne son instrument de travail comme un instrument de travail, c'est tout. Et le mécanicien est obligé de s'en remettre de sa machine. Il est beaucoup plus facile de mettre un train en route que de l'arrêter. Car bien souvent, toute la sécurité du convoi repose sur la vigilance du mécanicien. Il a beau avoir devant lui une signalisation très complexe, très bien faite, ce qui existait d'ailleurs en France, il faut le dire. Certains ont trouvé que les imprévus étaient le bon côté du mécanicien, le côté plaisant. Personnellement, je ne le crois pas. L'imprévu est toujours à redouter, tant du point de vue mécanique que matériel. Et il faut y parer le plus rapidement possible et en évitant toujours ce que l'on appelle en termes de métier la casse. Il faut éviter ces coups durs, ces coups de tampon, ces rattrapages. Il faut faire, le mécanicien doit faire son travail, veiller à la sécurité de la ligne, regarder même sur la voie à côté, car il peut y avoir un obstacle, et prévenir son camarade qui descend avec un train rapide ou un autre train en face, le prévenir, l'arrêter, il a toute la vigilance à lui, et évidemment, c'est tout son esprit, tout son corps étendu vers un seul but, une seule destinée, arriver au bout et tout complet. L'époque la plus pénible pour les mécaniciens de route, c'est certainement l'époque que nous vivons à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'époque des brouillards. En termes de métier, on dit fréquemment que l'on fonce dans le coton, et ce n'est pas toujours très amusant pour le mécanicien. L'autre jour, je fonçais dans le coton, et nous marchions tout de même à 80-85 km à l'heure, et je me demandais bien où j'étais. J'étais non pas littéralement perdu, mais au-dessus, sur les côtés, il n'y avait que du brouillard. Et j'avais hâte de voir un signal au vert devant moi pour me rassurer. Et je voyais cette crainte que l'on éprouve toujours à un accident. Et j'ai eu très peur. Et en faisant le tour de la machine en gare du Nord, j'ai trouvé un sac à provisions accroché au marchepied de la machine. Et ce que mon père m'avait dit m'est revenu soudain à l'esprit, et je n'ai pas continué. Je suis revenu à la machine, j'ai dit au mécanicien, j'ai trouvé un sac à provisions, et je te préviens, ne compte pas sur moi, je n'irai pas plus loin. Mon père me racontait qu'un mécanicien, en faisant le tour de sa machine, et je vais vous donner tout de suite le tableau, cela se passait vers 21h, il y avait du brouillard, de la vapeur en gare du Nord. Les mécaniciens n'avaient pas de torches électriques comme maintenant, ils se servaient encore de ce qu'on appelle un bobéchon enflammé, et vous voyez le tableau brossé, le mécanicien passant par devant sa machine avec ce bobéchon, donnant des formes d'ombre, un peu fantôme, n'est-ce pas, voir cette femme qui était ce tronc de femme qui était debout et le regardant de ses grands yeux, c'était quelque chose d'atroce, le mécanicien n'a plus jamais repassé dans sa machine après. Alors j'ai revu exactement cette scène en me demandant si une femme n'était pas également empalée sur le devant de la machine. Et je suis revenu, j'avoue que j'ai eu peur à ce moment-là. Il n'y avait rien eu. C'était encore l'époque des cartes d'alimentation. Nous avons retrouvé cette brave dame qui certainement avait eu très chaud. Que le mécanicien a dans son train sa famille ou même des amis, eh bien, il essaie de faire beaucoup mieux, il essaie de se surpasser, question de fierté personnelle qui peut-être ne s'explique pas pour le profane, mais s'explique très bien pour un mécanicien qui a à cœur de toujours faire mieux dans son métier. Il partage sa pensée entre le compartiment et son convoi. Il se dit, voici une gare qui se présente, il faut essayer d'arrêter le plus doucement possible de façon à ce que ma femme ne s'en aperçoive pas. Je suis tout de même un mécanicien. Et il se met également à la place de sa femme, aux réactions que peut avoir sa femme. Oh, ben alors, non, on dirait jamais que je suis dans le convoi. Il le fait exprès, certainement. Vous voyez la scène de ménage qui peut très bien se produire à ce moment-là. C'est d'ailleurs réel, cette chose s'est produite pour moi personnellement. Le rêve d'un mécanicien par notre carrière est d'arriver à sa retraite. Et tous les sites que le mécanicien a pu côtoyer au cours de sa carrière sont certainement sujets à des rêves de retraite. Il se voit selon son tempérament, selon ses fantaisies, même il se voit en train de pêcher. Et cela, c'est tout un idéal que se forge un mécanicien au cours de ces grandes randonnées que nous faisons le long des routes, pourrais-je dire, de France et de Navarre. Et moi, je la vois, ma petite maison, je la construis dans un rêve, un de ces rêves bleus, bleus aussi bleus que la Méditerranée, face à laquelle elle sera construite, avec son parterre, sa pelouse verte, ses citronniers, ses orangers, et puis une cuisine moderne, car nous serons tout de même encore modernes, sa discothèque que je voudrais assez vaste, discothèque enrichie de tous les disques que j'aurai eu au cours des années qui me restent encore à faire, avec la chambre pour le fiston, et puis également une chambre où nous pourrons nous reposer bien tranquillement, avec une terrasse où nous pourrons contempler d'un côté la Méditerranée et de l'autre côté les Pyrénées. Et plusieurs fois cette maison a été construite, et je puis dire qu'elle est en train de se construire à Argelès-sur-Mer. Lorsque la nuit vous roulez, eh bien, évidemment, tous les objets, toute la nature prend des formes bizarres. Ces fantômes à un tel point que, lorsque vous parcourez ces lignes, et que vous fixez des fois un arbre, un objet devant vous, vous passez, vous arrivez même à en avoir peur. et vous faites instantanément un recul. Et j'ai eu peur tout dernièrement, cette chose est assez bizarre, j'ai eu peur de moi-même. Je regardais dans l'écran qui était en face de moi, la glace qui était en face de moi, et le chauffeur était en train de charger son feu. Et je regardais, et j'ai vu une forme, tout à coup j'ai vu un visage devant moi, j'ai reculé. C'était simplement mon propre reflet qui était devant moi. J'ai eu peur de moi-même, un jeu d'ombre s'est produit, le feu, un train qui passait à côté et qui donnait un grand coup de sifflet, car nous nous saluons tous d'un majestueux coup de sifflet. J'ai eu peur de moi-même à ce moment-là. Et automatiquement, la réalité revient et les kilomètres défilent. Tous ces paysages sont peuplés de fantômes. Peuplés de fantômes, c'est... C'est le chantier de travaux que vous traversez. Ce sont les cimetières que vous voyez le long des rues, des routes. Ce sont le phare d'une voiture qui arrive à vous éblouir devant vous. C'est le feu des cantonniers qui n'est pas encore éteint sur la voie et vous vous demandez où vous allez pénétrer dans ce que vous allez voir devant vous. Les ponts semblent des fois des ponts de carton, même vous vous demandez par la lueur de vos phares si vous n'allez pas rentrer dans le pont. Et puis vous continuez, votre camarade qui passe à côté de vous, qui vous salue d'un majestueux coup de sifflet, vous remet immédiatement dans cette réalité que vous n'avez jamais perdue, que vous avez simplement un peu effacée de votre tâche quotidienne. Il vous le rappelle tout de suite que vous êtes en train de conduire votre train et que d'autres derrière vous ont une confiance accrue en vos services.
La radiodiffusion française vient de vous présenter Le Bureau des rêves perdus, une émission de Louis Maulion, avec Étienne Berry et les rêves perdus de Monsieur Laroche, mécanicien de route à la SNCF. Réalisation, Albert Hiera.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 février 1954 sur France Culture.